Bonsoir, comment allez-vous ? Woody Allen disait « J'ai lu Guerre et Paix en lecture rapide », ça parle de la Russie. Moi, j'ai regardé « Métro, petite histoire des transports » illustré par Anya Deniskaya et écrit par Alexandra Litvina, ça parle aussi de la Russie. En général, quand on évoque la Russie au moment de Noël, on pense neige, traîneau, révolution, opéra, Prokofiev, fourrure et Moscova. Je n'ai rien vu de tout ça, mais des tramways, des métros, des autos, des locomotives. On y apprend qu'il y a plus de 1000 ans, le savant grec Héron d'Alexandrie avait créé une machine à vapeur, l'éolipile. On y voit aussi en coupe le tunnel sous la Manche et la fameuse station de métro Mayakovskaya. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le métro de Moscou servait d'abri. Le soir, après la fin du service, les Russes disposaient un plancher sur les voies avec des toilettes, des fontaines et même une bibliothèque. Maintenant, pour une pièce de 5 copecs, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez dans le métro de Moscou et aller partout. Mais attention, si vous ressortez et revenez, il faudra repayer les 5 copecs. À Moscou, avant 1872, il y avait déjà un tramway, le Konka, des wagons sur des rails mais tirés par un cheval. Il devait avoir une vie de chien, celui-là. À Saint-Pétersbourg aussi, il y avait un tram, autrefois, qui passait sur la Neva gelée. Et savez-vous quel est le plus long tunnel ferroviaire du monde ? Le tunnel de Saint-Gothard, 57 km. Il a ouvert en Suisse en 2016. Ce métro Petite Histoire des Transports, édité à la librairie du Globe, amuse autant les parents que les enfants, ou les enfants que leurs parents, mais pas leur chien qui ne sait pas lire.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 11 ans, je voudrais savoir à combien de mètres de profondeur passe le métro à Paris quand il est en dessous sol. Au revoir, merci beaucoup, au revoir.
Bonsoir Louise, alors nous avons proposé Louise ta question à Song Phan Cam qui est guide et conférencier à la RATP et qui est également responsable de l'identité visuelle et sonore de la RATP. À combien de mètres passe le métro dans le sous-sol, vous demande Louise Song Phan Cam?
Bonjour Louise, c'est une très bonne question. En effet, en général le métro passe entre 5 et 7 mètres de profondeur sous le niveau de la chaussée. Par contre, cela peut varier puisque effectivement il y a plusieurs lignes qui ont été construites depuis le début du siècle dernier. Et en fait les profondeurs peuvent varier non seulement en fonction de la position des autres lignes, mais aussi des autres circuits comme les égouts, les caves et depuis quelque temps les parkings. Et aussi avec l'évolution des techniques de construction, on a construit le métro plus ou moins en profondeur. Mais aussi en aérien, quand on n'a pas pu faire autrement. Nous avons les lignes 2 et 6 qui sont...
Alors 2 et 6, c'est les lignes qui vont de où à où ?
Alors la ligne 2 part de la Porte Dauphine jusqu'à Nation, et la ligne 6 de Nation jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Alors quand le métro est aérien, c'est qu'en effet, on n'a pas vraiment pu le faire en sol. On aurait pu le faire, mais comme la topographie de Paris est assez variée, la ville de Paris est constituée aussi de vallées, de collines, ça monte, ça descend. Et il était plus simple de passer le métro en aérien pour essayer d'avoir une trajectoire en fait assez horizontale le long de l'itinéraire, plutôt que de suivre les pentes de la ville de Paris. D'accord. Parce que si on faisait des pentes trop sévères, les métros auraient pu aussi avoir du mal à les grimper. Et donc c'était plus simple en fait de sortir. Ben on le voit quand on est à côté de la Tour Eiffel sur la ligne 6 au niveau de Passy, on voit la grande colline de Chaillot. Et effectivement, s'il fallait descendre sous cette colline, il aurait fallu descendre sous la Seine et aller vraiment très en profondeur. Et finalement, c'était plus simple de sortir le métro au niveau de la colline, puisqu'ensuite, on est plus près du sol dans les quartiers du 16e arrondissement. Alors, il y a des montées et des descentes dans le sous-sol parisien. Effectivement, on suit la topographie de la ville de Paris. Mais les ingénieurs, au début du siècle dernier, ont surtout privilégié la construction sous les rues et les avenues de la ville. Pourquoi ? En fait, parce que c'était la propriété de la ville de Paris et il n'y avait pas de déclaration d'utilité publique, l'équivalent de cette déclaration à l'époque, à faire. Il n'y avait pas d'expropriation à faire et de demander des autorisations de passer dans les sous-sols des différentes habitations privées.
En fait, la raison n'est pas géologique, elle est juridique.
Elle est notamment juridique et puis c'était beaucoup plus simple à l'époque d'ouvrir les rues et de les refermer une fois qu'on avait construit.
Alors je me pose une question également, Song Phan Cam. Peut-on avoir une ligne sous une autre ?
Alors on peut tout à fait superposer plusieurs lignes de métro. Évidemment, il y a des études géologiques qui sont faites auparavant. Et on peut les construire les unes au-dessus des autres. Même au tout début des années 1900, quand il a fallu construire la ligne 3 du métro, on savait qu'à la station Opéra allait être construite plus tard, les lignes 7 et 8. Et donc pour anticiper le croisement sous la place de l'Opéra des différentes lignes, les ingénieurs ont construit tout de suite un grand puits de 20 mètres, vraiment pile poil devant l'Opéra Garnier, ce qui a permis de mettre au plus près du sol la ligne 3, et avec des espaces réservés en dessous, pour les lignes 7 et 8 qui allaient arriver quelques années plus tard.
Donc en fait, le métro est à quelle profondeur? 5-6 mètres pour les premières lignes. Et le plus profond du plus profond, ça serait combien? 20 mètres?
Alors le plus profond du plus profond, c'est 25 mètres.
Wow.
Et on trouve cette profondeur à la station Abbesse. Effectivement, la butte des Abbesses est assez élevée.
C'est la butte Montmartre.
C'est la butte Montmartre. Et on ne pouvait pas remonter la ligne de métro aussi près du sol. Donc il fallait qu'elle reste à niveau raisonnable pour pouvoir suivre son trajet par rapport aux stations précédentes et suivantes. C'est la raison pour laquelle on trouve une batterie d'ascenseur à baisse pour faciliter la montée et la descente des voyageurs. Sinon, il faut grimper environ 150 marches.
Ah, c'est vrai que ça fait une trotte. Hein. Moi, je l'ai fait avec les courses et les enfants qui ne voulaient pas marcher, bien entendu. On est content quand on arrive en haut. En ce moment, le métro parisien se prépare aux inondations de la Seine. Il y a eu jeudi dernier une manœuvre à la station Ballard. Ils ont construit à toute vitesse un mur autour des bouches d'aération pour être tout prêt quand la Seine allait déborder, si elle déborde, bien entendu. Ce soir, dans les petits bateaux, nous saurons pourquoi et comment les papiers jaunissent. Pourquoi tous les bébés humains naissent avec les yeux bleus? Et si les jeunes Anglais apprennent le français comme nous apprenons l'anglais? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi les cochons ont une queue en tire-bouchon. Merci.
Lila, nous avons proposé ta question justement à un éleveur de cochons sur le Larzac, un éleveur en cochons bio et extensif, on nous dirait ce que ça veut dire. Alors Nicolas Brahi, qu'est-ce vrai d'abord cette histoire de queue en tire-bouchon dont parle Lila?
Alors Lila, les cochons ont une queue en tire-bouchon car ils sont élevés dans des conditions de stress. Tous mes cochons ont la queue droite. La queue sert à chasser la plupart des parasites, des mouches, et elle est bien utile en plein air. Cependant, lorsqu'on met les cochons dans des espaces restreints, ils vont se retrouver en fait avec un stress important qui va engendrer comme une tension nerveuse qui va faire rétracter la queue et donc donner cette forme hélicoïdale.
Donc en fait, les cochons n'ont pas la queue en tire-bouchon. La queue en tire-bouchon, c'est juste un symptôme du stress.
Tout à fait.
Alors, j'ai promis que nous expliquerions ce que c'est, Nicolas Braic, que l'élevage extensif.
Alors, l'élevage extensif, c'est en fait donner le maximum d'espace aux animaux. Grâce à ces conditions d'élevage, ils vont pouvoir trouver une grande partie de leur alimentation dans la nature. Ils ont de la plaine, des bois, et en fait, ils ont accès par eux-mêmes à l'ensemble de ces ressources et ils peuvent sélectionner leur alimentation au cours de la journée.
Alors, il leur faut combien d'espace pour trouver ce qu'il leur faut à manger pour un cochon, par exemple?
Mon élevage, on est à peu près un terrain de football par cochon, c'est-à-dire un hectare. Donc, on est vraiment sur une notion où on laisse le maximum d'espace au cochon.
Un terrain de foot par cochon?
Un cochon industriel va être plutôt autour de entre 1,6 et 2 mètres carrés. Et puis un cochon en semi-liberté ou plein air va avoir un accès à une courette extérieure. Là, on est vraiment sur des cochons qui sont plutôt sauvages ou naturels avec d'immenses espaces.
Cousin de coude.
Mélissa Lavaux, c'était Cousaine, K-O-U-Z-E-N. Ce n'est pas du breton, c'est du créole haïtien, puisque Mélissa est une Canadienne d'origine haïtienne. Et d'ailleurs, elle chante en créole haïtien. C'est très joli, le créole haïtien. Ils disent par exemple, pour penser beaucoup, songer en pile. Tiens, tenez, puisque nous parlons langage, nous avons rendez-vous ce soir avec notre anglais de service pour parler du français.
Bonjour, je m'appelle Tamara. Et je voudrais savoir, est-ce que les anglais comme langue secondaire apprennent le français comme nous, l'anglais? Merci de me répondre.
Bonsoir Tamara, c'est l'écrivain britannique Stephen Clark, qu'est-ce que je prononce bien?
C'est pas grave.
Bah ça, dites-moi. Bah,
en anglais, on dirait Stephen Clark, mais les gens vont jamais savoir me trouver si vous dites ça comme ça.
Donc, vous avez écrit Elisabeth II et c'est édité chez Albin Michel. Et ça nous parle, évidemment, de la reine d'Angleterre et de son humour. Mais là, ce qu'aimerait savoir Tamara, c'est la langue que vous apprenez, vous, les écoliers britanniques.
Ben, oui, on apprend le français comme langue secondaire, mais malheureusement, de moins en moins. J'ai commencé à apprendre le français à peu près à l'âge de 9 ans, où on disait, genre, où est mon chat, où est la plume de ma tante, on disait. Donc, moi, j'ai commencé assez tôt, on apprenait assez mal, mais on a continué jusqu'à 16 ans obligatoirement. Moi, j'ai fait option langue après. Mais on continuait les langues, même le latin, j'ai fait jusqu'à 16 ans. Et puis, on a commencé l'allemand à genre 14 ans. Et moi aussi, j'ai commencé ça. Mais même à l'époque, c'était un peu rare. Et maintenant, les langues dans les écoles anglaises disparaissent un peu. Et que de nos jours, apparemment, le français une deuxième langue, et c'est principalement le français, n'est obligatoire jusqu'à 14 ans. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a de plus en plus besoin de regarder vers l'international. Alors, pourquoi ne pas parler la langue. Tout le monde sait que si on va dans un pays pour négocier avec les gens, c'est très poli, très apprécié de parler leur langue. Alors les Anglais en ce moment semblent oublier ça, peut-être pour des raisons de budget, parce que chez nous les budgets sont très 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 serrés dans l'éducation. Mais en plus, il faut dire que c'est un énorme avantage, apparemment, on me le dit, d'être bilingue. Ça rend le cerveau plus souple. Donc, c'est super bien d'apprendre les langues, apparemment. C'est un peu comme la musique. Je dois dire que la famille royale m'impressionne toujours parce que le prince Charles et la reine, même avec des accents incroyablement forts, essaient de parler français. La reine, elle fait même des blagues en français. Elle a dit, lors d'un discours avec François Hollande, je pense, elle avait parlé de la Manche. Entre nous, elle dit, ce n'est pas une ligne de partage, c'est un trait d'union. C'est très joli.
Oui, c'est joli.
C'est presque français. Quelqu'un a dû lui écrire ça pour elle. C'est pas elle qui, je pense, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a des scénaristes professionnels qui font ça, mais elle a très bien dit, un accent incroyablement fort. Elle se débrouille en français très bien et ça devrait donner une leçon aux autres anglais que pour être diplomate et dire des gentilles choses à nos amis, il vaut mieux le dire dans leur langue.
Stephen Clark a écrit Elisabeth II ou l'humour souverain, édité chez Albin Michel. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et des savants répondent. Et nous passons d'un sujet à l'autre sans transition. Par exemple, maintenant, nous avons rendez-vous avec le professeur Jean-Claude H.
Je m'appelle Victoire, j'ai 7 ans et j'aimerais savoir pourquoi les bébés, quand ils naissent, ils ont les yeux bleus. Merci de me répondre.
Bonsoir, je suis le petit Laurent, j'ai 41 ans et j'aimerais savoir pourquoi mon petit Léonard, qui a un mois et demi, a les yeux du bleu passeront peut-être à une autre couleur. De plus, j'aimerais savoir pourquoi c'est le bleu qui est la couleur originale des yeux d'un bébé. Merci.
Bonsoir Victoire et Laurent. Alors nous avons proposé votre question à quelqu'un qui a les yeux bleus, mais qui est surtout professeur de médecine, neuro-ophtalmologiste. C'est vrai ces yeux qui restent pas bleus, pourquoi? Demande Laurent et Victoire.
Alors je vais répondre au petit Laurent et à la grande Victoire, ouais. Bien sûr. Que quand bébé naît, la mélanine. Alors la mélanine, c'est ce qui nous donne la couleur de nos cheveux. C'est ce qui va arriver sur la peau quand on va bronzer. La mélanine n'a pas encore atteint l'œil parce que les cellules qui doivent prendre la mélanine ne sont pas encore en place. Ça va mettre un certain temps. Et donc, les cheveux, comme les yeux, vont prendre de la couleur en incorporant cette mélanine, mais plus tard, dans le développement de l'enfant. Ça, c'est lié au fait que quand maman, elle fait son bébé, elle le fait pas complètement fini. il se finit plus tard dans la vie. Par exemple, pour la vision, elle est presque finie seulement à 3 mois. Ah ouais. Et bien sûr, la couleur n'est pas encore finie. Elle va se développer pendant la première année de vie. Et un bébé qui a les cheveux clairs peut se retrouver plus tard avec des cheveux foncés et les yeux clairs avec des yeux plus foncés. Et c'est la quantité de mélanine, donc cette chose un peu marron, qui va déterminer si les yeux vont être verts ou marrons. S'il y a très peu de pigments, très peu de mélanine, sur le fond bleu, un tout petit peu de jaune, ça donne du vert. Et c'est ça qui donne les yeux verts. Si vous mettez un petit peu plus de marron, ça va donner des yeux de couleur intermédiaire. On dit métachromatique, c'est un peu compliqué. Et si il y a beaucoup, beaucoup de marron, eh bien, ça donne des yeux très foncés, comme on peut voir en Afrique ou un peu partout. Now, somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day, his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Said Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt.
Rocky Raccoon, qui n'est pas la plus connue des chansons des Beatles, elle a un petit air western. Il s'agit d'un garçon des Black Hills dans le Dakota dont la petite amie s'est enfuie avec un autre mauvaise idée.
Les petits bateaux sur France Inter.
Souvent, avec les décorations de Noël, nous plongeons dans la cave ou nous montons au grenier. Ressortir nos décorations, c'est toujours un plaisir. Et puis parfois, on a des mauvaises surprises parce qu'elles ont vieilli.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans et je voudrais savoir pourquoi le papier jaunit avec le temps. Merci.
Bonsoir Chloé. Erika Schwarfer, vous êtes conservatrice, restauratrice spécialisée dans la restauration des œuvres graphiques et des livres. Donc, du papier. Pourquoi jaunit-il, demande Chloé.
Eh bien, bonsoir Chloé, c'est une excellente question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe fréquemment chez nous. Donc les vieux livres qui jaunissent avec le temps, mais aussi, si vous avez remarqué, quand vous déménagez et que vous enlevez les cadres des murs, cadres photos et tableaux, il y a une marque, une empreinte, et autour de cette empreinte, c'est plus foncé. Alors, l'explication, en fait, est un peu comme des poupées gigognes. Parce que c'est un petit élément particulier qu'il y a dans certains types de papier qui fait que ce papier jaunit. Et finalement, c'est tout simplement le vieillissement du papier. Comme nous, on vieillit, comme toute matière organique, le papier vieillit aussi plus ou moins vite en fonction des types de papier.
Ce qui voudrait dire, Erika Schwarfer, que le papier est vivant.
Et c'est un matériau organique, donc ça provient d'une matière qui est vivante, ce sont les plantes. Les papiers sont d'origine avant tout végétale. D'accord. Et pour faire du papier, il faut un élément important, c'est la cellulose, qu'on trouve dans la plupart des plantes. Hein. Donc après, il n'y a pas toujours que de la cellulose, et c'est là que vient notre problème. Donc les papiers qui jaunissent sont des papiers qu'on dit de pâte mécanique. Donc c'est là que ça fait un peu les poupées gigognes, c'est que la pâte mécanique, elle est faite de bois. On utilise le bois pour faire ce papier, pour obtenir la cellulose. Sauf que dans le bois, il n'y a pas que de la cellulose, il y a ce qu'on appelle la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. Et notre suspect, c'est la lignine. La lignine, c'est une macromolécule, donc une grosse molécule qui vient entre les fibres, qui ne sert à rien pour le papier, mais qui est très importante pour les plantes. C'est ce qui permet aux plantes de tenir, d'être rigides au niveau de leurs tiges, de leurs feuilles, voilà. Mais dans le papier, c'est pas du tout ce qu'on veut, puisqu'on veut plutôt quelque chose de souple et de stable. Et c'est tout l'inverse qu'on obtient avec la lignine. Elle va être sensible à la lumière, et en particulier aux UV. Donc comme nous, notre peau vieillit à cause des UV et du soleil, donc attention au bronzage, et bien le papier également. Il va vieillir prématurément quand cette lignine est présente au soleil.
Et alors, est-ce qu'il y a des papiers où il y en a moins et des papiers où il y en a plus?
Et oui, puisque s'il n'y a pas de lignine, il n'y aura pas ce phénomène. Un papier 100% cellulosique, comme par exemple le papier fait à partir de coton, issus de tissus, comme on le faisait au tout début de la production de papier en Europe, il n'y a pas ce phénomène. Donc finalement, ce ne sont pas les papiers les plus anciens qui jaunissent le plus, mais plutôt les papiers les plus récents.
Et voilà, nos petits bateaux sont terminés pour ce soir. Vous pouvez venir sur notre site ou bien réécouter l'émission par franceinter.fr ou encore la podcaster ainsi que celle de dimanche dernier que vous n'avez pas pu entendre en direct à cause de l'actualité. Nicolas Cazot, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessot.